Bonjour et bienvenue, 18 octobre 2017, journée douce aujourd'hui, j'espère. C'est l'émission Les Voix de service quotidien, compagnie d'Hélène Denis. Bonjour Jean-Sébastien Laliberté.
Bonjour Hélène Denis.
Alors j'ai un peu l'âme à la vague ce matin. On a appris, vous en avez parlé je crois à l'émission Les Voix de service, ce magazine, la mort du chanteur du groupe canadien de Tragically Hip. On s'en attendait, mais ça frappe.
Oui, 53 ans, c'est toujours trop jeune.
Oui, qui est parti atteint d'un cancer du cerveau. Alors, nos pensées vont vers Gord Downie et sa famille. On va peut-être entendre une chanson des Tragically Hip. Est-ce
peut-être,
qu'il y en a qui sont douces?
Il y en a. On a écouté notamment, il y a une demi-heure environ, Ahead by a Century, Tragically Hip, qui ont un répertoire qui est quand même assez méconnu dans le Québec francophone si on compare au reste du
Canada.
Rest of Canada.
Mm-hmm.
Ils ont des chansons qui sont quand même assez douces, mais qui sont aussi également très longues. Donc, on parle d'un 5 minutes, 5 minutes et demie, des belles pièces. On verra comment on peut essayer de se faire plaisir ce matin.
Peut-être un petit extrait pour nous recueillir et penser à Gord Downie.
Aujourd'hui, 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause. On sait qu'avec l'avancement des soins de santé, avec le vieillissement de la population, de plus en plus de femmes vont vivre plusieurs décennies de leur vie avec la ménopause et les effets secondaires engendrés par ce cycle de la vie.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait une journée consacrée à la ménopause.
Et c'est le 18 octobre. Sinon, dans l'histoire, allons tout de suite au 18 octobre 629 pour le couronnement de Dagobert Ier, le roi des Francs. Mmh. Pour la petite histoire, Dagobert, qui était myope, avait l'habitude de se prendre les pieds dans les tapis et de chuter sous les regards médusés des témoins. Bon vivant et populaire, il riait bien souvent de sa propre personne. Ça vous fait penser, bien sûr...
À la chanson.
À la chanson Le bon roi Dagobert, qui ce matin, j'ai appris près de 24 couplets. La version pour enfants n'en compte que 5 ou 6, je crois.
Et mais ça nous faisait rire, hein?
Absolument, absolument. Et cette chanson qui a pour but de se moquer de la royauté, en fait, date de la Révolution française. Donc, on parle de 1100 ans plus tard. Le couronnement, je le rappelle, était en 629. Révolution française, on parle de fin des années 1700. Et donc, c'était pour rire de la royauté, notamment du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, et également plus tard, pour rire de Napoléon.
Est-ce que le roi Louis XVI avait mis ses culottes à l'envers?
Apparemment qu'il avait la personnalité distraite, mais je n'ai pas fait de recherche approfondie pour savoir s'il était à l'image du roi Dagobert, tel que la comptine nous l'enseigne. Alors, on reste aussi en France. On revient en 1685, alors qu'un autre Louis XIV interdit le culte protestant et impose le baptême catholique en France. 18 octobre 1867, achat de l'Alaska par les États-Unis. 1873, à New York, les délégués des universités Columbia, Princeton, Rutgers et Yale édictent les règlements du football américain, donc invention officielle du football américain en 1873. 18 octobre 1892, une première ligne téléphonique entre en service entre New York et Chicago. 1922, le Parlement de Londres crée la British Broadcasting Corporation, la BBC, soit 14 ans avant Société Radio-Canada et Canadian Broadcasting Corporation. 1929, toujours un 18 octobre, et encore à Londres, le comité judiciaire du Conseil privé britannique, le tribunal de dernière instance pour le Canada à l'époque, casse une décision de la Cour suprême du Canada et statue, à la grande surprise, que les femmes sont bel et bien des personnes et peuvent être ainsi nommées au Sénat.
Merci de nous en informer.
Alors, jusqu'en 1929, les femmes au Canada n'étaient pas considérées comme des personnes, donc ne pouvaient pas se présenter au Sénat. Par chance, les temps changent.
Je pensais que vous alliez dire « le ridicule ne tue pas ».
Ah ouais, on pourrait aller dans bien des directions avec cette affirmation. On revient à l'histoire. 1967, toujours un 18 octobre, approchant Vénus, la sonde russe Venera 4 a juste le temps, à 27 km de la surface, de signaler que le métal fond dans l'atmosphère. Donc, ne pourra pas se poser sur la planète. 1977, Monsieur Octobre, on ne parle pas d'un calendrier, mais on parle bien d'un joueur de baseball, Reggie Jackson, frappe 3 coups de circuit en 3 présences au bâton.
Au mois d'octobre.
Au mois d'octobre, c'est lui qui... C'est grâce à cet événement qu'il est surnommé Monsieur Octobre. Quand même, 3 coups de circuit en 3 présences Ouh. Consécutives au bâton.
Faut le faire.
Oui, faut du talent, je crois. Ouais. 18 octobre 1989, la sonde Galileo parcourt 4,6 milliards de kilomètres avant d'atteindre Jupiter 6 ans plus tard. En 2008, le repère des Hells Angels de Sorel Tracy est détruit par un incendie d'origine criminelle. Et 18 octobre 2011, le chansonnier et poète Gilles Vigneault reçoit la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à Québec. Pour terminer cette chronique, 18 octobre, c'est l'anniversaire de naissance en 1919 du premier ministre canadien et père de l'autre, Pierre-Elliott Trudeau. Et en 1926, du pionnier du rock'n'roll, Charles Edward Berry, dit Chuck Berry, et le décès en 1931, finalement, 18 octobre, de l'inventeur et industriel Thomas Alva Edison.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À la une de la presse, inconduite sexuelle reprochée à Éric Salvaille, parties intimes exhibées ou empoignées, tentatives de séduction insistantes dans des salles de montage, 11 personnes ont raconté à la presse avoir subi des inconduites ou en avoir été témoins de la part du producteur et animateur Éric Salvaille. Exclusif, nouveau CHUM, les consultations externes réduites de 65 %. Et sport hockey, on voit le sigle du Canadien, 2, et le sigle des Sharks de San Jose, 5. Texte de Katia Gagnon et de Stéphanie Vallet, avances sexuelles en string, parties intimes exhibées, pardon, ou en poignée, tentative de séduction insistante dans des salles de montage, 11 personnes ont raconté à la presse avoir subi des inconduites ou en avoir été témoins de la part du producteur et animateur Éric Salvaille, la plupart du temps dans un contexte professionnel. La première fois que le maquilleur et coiffeur Marco Berardini rencontre Éric Salvaille, c'est lors d'un événement professionnel autour de 2003, Salvaille le reconduit chez lui en voiture. Déjà, les propos qu'il tient relèvent des avances sexuelles explicites et insistantes. Il était très pushy. Je venais juste de le rencontrer et il me disait déjà qu'on ferait donc un beau couple, raconte-t-il. Monsieur Berardini refuse poliment les avances de l'animateur. Alors, j'avance dans le texte qui est quand même assez long. Quelques mois plus tard, Marco Berardini est engagé pour travailler sur l'émission animée par Salvaille. Un jour, alors qu'il le maquille, l'animateur reprend ses commentaires de nature sexuelle. « Je me suis penché pour prendre quelque chose dans mon sac et il m'a dit « Wow, quel cul! Tu devrais te pencher plus souvent, tu portes ces jeans-là juste pour m'exciter. » Alors il s'est touché l'entrejambe et a dit « Et je pense que ça marche. » C'est ce que raconte Marco Berardini. Qui a perdu patience ce jour-là. Il était debout devant moi, il m'a touché les cheveux. Il m'a dit « Tu as tellement de beaux cheveux, j'aimerais vraiment les tirer en te faisant l'amour. » C'est là que je me suis fâchée, j'ai pris sa main, je l'ai enlevée de là. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de me toucher, que j'essayais juste de faire mon travail. Le maquilleur a conclu en disant qu'il ne travaillerait plus jamais pour Salvaille. À ce moment, l'animateur se place dans le chambranle de la porte et commence à l'insulter. « Tu es laid, tu es gros, je ne te l'ai jamais dit, mais tu maquilles mal tes clients. Je fais tout recommencer par quelqu'un de compétent dès que tu pars. Il m'a abîmé d'insultes, dit-il. Il voulait juste me détruire. » Le maquilleur s'aperçoit rapidement que l'atmosphère a changé à l'émission. Au début de la journée, j'étais traité comme une célébrité et à la fin, comme de la merde. Marco Berardini a longuement hésité avant de nous parler. Il l'a fait lorsque nous lui avons rapporté avoir recueilli plusieurs autres témoignages des gens qui requéraient l'anonymat car ils avaient peur des représailles qu'Éric Salvaille pourrait exercer à leur endroit. « Tu ne peux pas mettre mon nom, il faut que je paye mon hypothèque », a dit l'un de ses témoins. M. Berardini est dans une situation bien différente, il travaille depuis près de 11 ans à Los Angeles. Alors, la presse a tenté de recueillir les commentaires d'Éric Salvaille sur le témoignage de Marco Berardini et sur celui des 10 autres personnes qui ont accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Après une brève rencontre en présence de son avocat, Maître Jacques Janson, l'animateur a fini par décliner la demande d'entrevue de la presse. Exclusif à la presse, les consultations externes réduites de 65 % au nouveau CHUM une semaine après son ouverture, le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, éprouve des difficultés de communication au point où sa direction demande à ses médecins de réduire de 65 % le volume de patients vus en consultations externes, a appris la presse. Patient au nouveau CHUM, Mario Lambert passe une échographie abdominale chaque année avant son rendez-vous avec son hépatologue, un médecin spécialiste des maladies du foie. Or, cette année, il n'a pas reçu de lettre du département de radiologie comme à l'habitude, confirmant son échographie en prévision de sa rencontre avec son médecin spécialiste fixé à la fin du mois de novembre. Inquiet, M. Lambert a téléphoné au département de radiologie du nouveau CHUM pour se faire répondre qu'on était incapable de lui offrir une date de rendez-vous ou même de lui donner une idée des délais d'attente pour une telle échographie « non urgente », entre guillemets, selon ce qu'il a raconté à la presse. La réceptionniste lui aurait conseillé d'aller dans une clinique privée et de porter plainte s'il était insatisfait, décrit-il. « Je trouve inacceptable que les patients soient pénalisés de la sorte. De toute évidence, il y a eu un manque au niveau de la planification », dit M. Lambert, qui affirme avoir déposé une plainte auprès du commissaire aux plaintes de l'établissement hospitalier. C'est bien beau de se péter les bretelles en disant qu'on a déménagé Saint-Luc en quelques heures, mais si le nouvel hôpital n'offre pas les services qu'il est supposé offrir, on n'est pas plus avancé, dit Mario Lambert, patient au nouveau CHUM. Je suis déterminée à retrouver Jesse. À la recherche de son fils disparu au Pérou, une mère implore Apple et T-Mobile de lui venir en aide. Après avoir alerté la police péruvienne, le SPVM, la GRC, Interpol et le ministère des Affaires étrangères, la mère de Jesse Galganov, un Montréalais de 22 ans disparu lors d'un trek au Pérou il y a 3 semaines, est partie hier à sa recherche dans la cordillère des Andes. Elle implore Apple et T-Mobile de lui fournir les dernières coordonnées enregistrées par son cellulaire avant qu'il ait arrêté de donner signe de vie. « Je suis déterminée à retrouver Jesse. Son fils, qui possède aussi la nationalité américaine, est parti de Montréal le 24 septembre dernier pour un voyage de 8 mois en Amérique du Sud. Il avait averti sa mère par texto le 28 septembre qu'il serait difficilement joignable pendant 4 jours. » puisqu'il devait partir en trek le lendemain matin dans un sentier balisé de Santa Cruz près de la ville de Huaraz. Voyageant seul, le jeune homme avait préalablement donné à sa mère un accès à la fonction « localiser mes amis » sur son iPhone, lui permettant de faire connaître en tout temps sa position géographique approximative. La dernière lecture indiquait que Jesse se trouvait à Huaraz, à 400 km au nord de Lima, le 28 septembre à 16h53. Son compte T-Mobile, auquel Mme Clement a aussi partiellement accès, indique qu'il s'est connecté à l'Internet avec son iPhone une dernière fois à 4h52 le 29 septembre. « Je demande à Apple et à T-Mobile leur collaboration pour nous aider à déterminer l'endroit précis de sa dernière connexion. Apple a la réputation d'être une des entreprises les plus réfractaires à communiquer des informations personnelles lorsqu'elle n'est pas contrainte à le faire par un mandat judiciaire. On ne veut même pas accéder au compte, on veut juste qu'il donne les informations aux policiers », suggère Anne-Marie Boucher, la mère d'un des grands amis de Jesse, qui a décidé de faire le voyage au Pérou, aux côtés de Mme Clamen. L'Union paysanne perd son président. Benoît Girouard quitte la présidence de l'Union paysanne après une dizaine d'années à diriger le regroupement d'agriculteurs, d'artisans et d'intervenants du milieu agricole et rural. Beaucoup de choses ont changé en 10 ans, dit-il. Des étudiants font leur thèse en agroécologie et reprennent nos idées. Le mot « paysan » n'a jamais eu autant d'entrées dans le registraire des entreprises du Québec. À son arrivée à l'Union il y a 16 ans, le mot « paysan » avait plutôt une signification péjorative, dit le président sortant. Alors qu'aujourd'hui, on se fait une fierté de présenter des produits artisanaux, paysans ou fermiers. Benoît Girard retourne à ses premières amours, le milieu communautaire. Le cofondateur de l'Union paysanne, Maxime Laplante, fera le pont jusqu'à ce que le regroupement d'un millier de membres élise un nouveau président. C'est un texte de Stéphanie Bérubé. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall.
Les Beatles.
À la une du Devoir de ce mercredi 18 octobre 2017, Raqqa, pour ce qu'il en reste, est libéré du groupe EI. Le groupe EI a perdu mardi Raqqa, son principal bastion en Syrie, après des mois de combats contre des forces soutenues par Washington. Des combattants des forces démocratiques syriennes ont manifesté leur joie sur le rond-point d'Al-Naïm, certains brandissant le drapeau jaune des FDS, comme on voit sur la photo à la une du Devoir, comme Rojda Fela, la commandante à la tête de l'offensive victorieuse. C-Series, notre génie est sauf, dit Couillard. Le gouvernement a perdu son pari, rétorque l'opposition. La recherche d'or noir déchire le Québec sans l'enrichir. Les maires veulent reprendre le contrôle de leur territoire que l'État a cédé aux pétrolières et aux gazières pour une poignée de dollars. Autobiographie intitulée « Notre révolution », Bernie Sanders, une révolution toute simple, un politicien hors norme dont la popularité ne se dément pas. Netflix, l'astuce de Mélanie Joly, c'est la chronique de Conrad Yakabuski. Culture, la lutte des Métis de l'Ouest sur scène. Alena, les trois pays ont besoin de temps. Et archéologie, des trésors refont surface. Dépeint sous les traits d'un naïf et d'un perdant par ses adversaires politiques, Philippe Couillard s'est évertué mardi à dissiper l'impression que la C-Series, dans laquelle l'État québécois a investi pas moins de 1,3 milliard de dollars, a été cédée à Airbus pour rien. La prise de contrôle du fleuron québécois par le géant de l'aéronautique éloigne la menace qui pesait jusqu'à aujourd'hui sur les emplois de grande qualité des milliers de travailleurs à pied d'œuvre sur la chaîne de fabrication de l'avion jusqu'en 2041. Ce n'est pas rien, a dit froidement le premier ministre. Néanmoins, M. Couillard doute toujours de voir l'État québécois récupérer la mise de 1,3 milliard faite par Investissement Québec, IQ, pour mettre la main sur 49,5% de sociétés en commandite Avion C-Series en octobre 2015. La part d'IQ s'est rétrécie considérablement au cours des dernières semaines en raison de l'injection de nouveaux capitaux par Bombardier, puis lundi de l'entrée en scène d'Airbus. Elle est désormais de 19%. Les chances de le récupérer, le 1,3 milliard, sont toutefois beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a quelques jours, a fait valoir le chef du gouvernement. M. Lisée s'indigne de voir le fruit de plus de 10 ans de travail du génie québécois donné à un concurrent de Bombardier en échange de 0 euro, 0 dollar, 0 copec. Si Bombardier a signé cette entente-là, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, a soutenu le chef péquiste, précisant que la faiblesse de la C-Series tire son origine de l'injection de 1,3 milliard d'IQ Investissement Québec, non pas dans le consortium de Bombardier, mais dans le programme de la C-Series, ce qui a été perçu à tort ou à raison comme une subvention étatique. Si j'étais à la place de M. Couillard, je serais déçu en tabarnouche, a affirmé le chef caquiste François Legault, non sans savoir que la participation d'IQ pourra être achetée à la valeur au marché en 2023. Pensez-vous qu'Airbus va s'arranger pour que la valeur marchande soit très élevée en 2023? A demandé le cofondateur d'Air Transat. Il faut avoir fait des affaires un peu dans la vie pour comprendre. Le Québec Inc. renonce à son rêve de voir Bombardier jouer dans les ligues majeures aux côtés d'Airbus et de Boeing. On aurait rêvé que Bombardier devienne aussi gros que Boeing et Airbus, mais en pratique, ça ne pouvait pas se produire. C'était impossible, a concédé M. Couillard. Les municipalités, commissions scolaires et autres sociétés d'État qui seront soumises à la loi québécoise sur la neutralité religieuse devront gérer les demandes à commandement pour motifs religieux sans nouvelle balise pour une période qui pourrait durer 9 mois. Dans l'espoir de fournir des lignes directrices claires à ceux qui devront appliquer la nouvelle loi, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a repoussé la date d'application de toutes les dispositions portant sur ces accommodements. Celles-ci entreront en vigueur d'ici le 1er juillet, bien après la sanction officielle de la loi, explique-t-on à son cabinet. Le projet de loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et les demandes d'accommodement religieux doit être adopté ce mercredi à l'Assemblée nationale. Moins d'un mois après avoir lancé sa campagne électorale, Jean Fortier se retire de la course à la mairie de Montréal pour appuyer la chef de projet Montréal, Valérie Plante. Une annonce commune est prévue avec M. Fortier et Mme Plante mercredi, a fait savoir Projet Montréal. Les candidats de Coalition Montréal, qui sont au nombre de 16, poursuivront leur campagne dans leurs arrondissements respectifs. S'il renonce à faire campagne, Jean Fortier n'a toutefois pas demandé à ce qu'on retire son nom du bulletin de vote. Jean Fortier était le candidat à la mairie de Coalition Montréal, mais le chef de cette formation politique est Marvin Rotran, conseiller municipal depuis 35 ans qui brigue un autre mandat dans le district de Snowdon. Ni l'un ni l'autre n'ont rappelé Le Devoir mardi. En théorie, Jean Fortier pourrait siéger comme conseiller municipal si son colistier devait être élu le 5 novembre prochain. Une version améliorée du Code de la sécurité routière, CSR, promise depuis 3 ans, sera déposée cet automne. Le nouveau ministre des Transports, André Fortin, compte respecter l'échéancier fixé par son prédécesseur, Laurent Lessard, pour présenter une version remaniée du CSR. Ce code, remis au goût du jour, est promis depuis 2014 par le gouvernement Couillard. C'est certain qu'il y a des choses qu'on veut réaliser dans cette réforme du Code de la sécurité routière. Il y a des choses pour améliorer la sécurité des piétons, il y a des choses pour améliorer la sécurité des cyclistes et également pour améliorer la sécurité des automobilistes, a dit le ministre Fortin, interrogé par Le Devoir en marge des travaux de l'Assemblée nationale. Les Québécois, en tout cas, semblent réclamer un meilleur partage de la route entre les automobilistes et les usagers plus vulnérables, piétons et cyclistes, indique un rapport de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont Le Devoir a fait état cette semaine. Quatre ans après le déversement de pétrole dans la rivière Chaudière, survenu lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, le taux de contamination des sédiments continue à diminuer. Toutefois, les anomalies chez les poissons, notamment des déformations et des lésions, demeurent préoccupantes. C'est ce qui ressort d'une série de rapports publiés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le 13 octobre dernier. Fait inquiétant, environ le tiers des poissons dans la rivière Chaudière présentent des anomalies de type DELT, déformation, érosion des nageoires, lésions et tumeurs, une proportion aussi élevée qu'en 2014. On constate toutefois des améliorations de l'état des communautés benthiques, des invertébrés dont se nourrissent plusieurs poissons. À la lumière de ces constats, le comité d'experts recommande simplement au ministère de laisser la nature faire son travail et de reprendre le suivi environnemental de la rivière en 2022. L'environnementaliste Daniel Green, qui s'intéresse depuis plusieurs années aux substances toxiques dans l'environnement, est loin d'être rassuré. La bonne nouvelle, c'est que les concentrations d'hydrocarbures sont à la baisse en comparaison avec les données de 2014, a-t-il affirmé au Devoir.
Pour Montréal. Merci papa, si c'est le papa, avoir un char à Montréal. du 1er novembre au 15 avril seulement les jours de pluie pendant une année bissextile. T'aurais dû, papa, oh t'aurais tellement dû, papa, m'acheter un vélo pour Montréal.
C'était la nouveauté de Andy Saint-Louis, ça s'intitule « T'aurais pas dû ».
À la une du journal de Montréal, disparu au Pérou, parti en randonnée en montagne, Jesse Galganov, un Montréalais de 22 ans, n'a plus été vu depuis 3 semaines. Angèle Coutu, morte 7 fois à l'écran. Alors, on parle de sa mort récente dans Unité 9, mort entre guillemets, bien sûr, parce qu'Angèle Coutu est en pleine forme. Autopsie d'un échec, C-Series, l'analyse de Michel Girard. 19 ans et défenseur à Nashville, je me sens à ma place, dit Samuel Girard. Des détenus vendaient du fentanyl sur le web, deux trafiquants québécois dans le collimateur de la justice américaine. L'un des premiers Québécois condamnés pour avoir produit du fentanyl de façon clandestine est maintenant accusé d'en avoir vendu aux États-Unis à partir de sa cellule du pénitencier de Drummondville et d'avoir causé des décès. Jason Joey Berry, un Montréalais de 34 ans, fait partie d'un groupe de 10 personnes, 5 Canadiens, 2 Chinois et 3 Américains qui viennent d'être inculpés de complot et de trafic de fentanyl aux États-Unis dans la même enquête, a annoncé le département américain de la justice hier. La chronique de Joe Zélegaud intitulée « Ceux qui fuient, le phénomène échappe à l'entendement ». Comment se fait-il que des conducteurs puissent frapper un être humain et prendre la fuite au lieu de lui prêter une assistance immédiate? Comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales dites avancées, ces délits de fuite soient en hausse constante depuis une décennie? Au Québec, toutes régions confondues, c'est par milliers qu'on les compte chaque année, avec ou sans victimes, comme disent les statistiques. Or, derrière les chiffres, il y a des vies volées ou brisées. Des familles dévastées, des conjointes et des conjoints meurtris, des amis inconsolables. La mort tragique du jeune cycliste Clément Ouimet, happé par une voiture dont le conducteur a pris la fuite sur la montée Camillien-Houde à Montréal, s'y est ajoutée tout récemment. Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui fuient lâchement les lieux en laissant derrière eux une personne à l'agonie, morte ou gravement blessée? Et pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux à le faire? Ces questions troublantes, elles nous hantent à chaque reportage d'un énième délit de fuite. Certaines théories pointent plus particulièrement les jeunes et leur tendance à l'irresponsabilité. D'autres, les portables et les écrans qui distraient de la route. D'autres encore, l'alcool, les drogues ou la crainte d'être arrêté, etc. Au-delà des hypothèses, il reste la réalité brutale de l'abandon à son sort d'un être humain blessé ou mort par celui-là même qui l'a frappé. Quel que soit l'âge ou la condition sociale du conducteur, ce geste abject trahit un narcissisme démesuré qui pue à plein nez la déshumanisation et la cruauté. L'altruisme existe heureusement toujours dans nos sociétés. Sinon, ce serait la jungle. L'augmentation des délits de fuite offre néanmoins une illustration parmi d'autres d'une forme d'égoïsme crasse et d'indifférence aux souffrances des autres qui, de manière insidieuse, nous gruge de plus en plus de terrain. Ceux qui fuient, c'est la chronique de José Legault dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le tableau Atlantide de l'artiste québécois Alfred Pellan a été volé lundi matin à Montréal. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années aurait décroché l'œuvre et l'aurait placée sous son manteau, selon un avis envoyé par la Sûreté du Québec à de nombreux propriétaires de galeries afin qu'ils gardent l'œil. Le suspect est blanc et mesure environ 1,67 m, 5 pieds 8. Alors, on voit l'œuvre de M. Alfred Pellan, multicolore, et aussi en mortaise, l'homme soupçonné qui aurait volé ce tableau d'Alfred Pellan. Et il porte une casquette jaune fluo. Le jury délibère au procès de Chilumba. Le Montréalais de 21 ans est accusé du meurtre au premier degré d'une employée d'un supermarché. Le jury a commencé ses délibérations au procès du jeune homme qui a tué l'employé d'un Maxi afin d'en arriver à un verdict qui peut aller du meurtre au premier degré à la non-responsabilité criminelle. « Restez ouverts, mais soyez critiques », a dit la juge Hélène Di Salvo, juste avant d'ordonner la séquestration du jury hier au Palais de justice de Montréal. 7 hommes et 5 femmes ont maintenant la tâche de décider du sort de Randy Chilumba, accusé du meurtre au premier degré de Clémence Beaulieu-Patry. Le 10 avril 2016, l'accusé de 21 ans avait fait irruption dans le supermarché de la rue Papineau et avait poignardé 14 fois sa victime, âgée de 20 ans, qu'il connaissait de vue. Une chambre digne du tiers-monde. Il paye 89 $ par jour à l'hôpital du Lakeshore de Pointe-Claire pour une pièce avec des trous dans les murs. « Je me sens comme si j'étais à Hochelaga-Maisonneuve dans une crack house », dénonce Michel Ouellet, âgé de 45 ans. Dans sa petite chambre, la peinture s'effrite partout sur les quatre murs. Il y a des trous et des morceaux de gypse se sont arrachés à de nombreux endroits. Le rideau qui doit lui donner un peu d'intimité est troué et le plancher est si abîmé qu'il est sableux sous ses pieds. Seule la salle de bain est encore dans un état convenable, se console M. Ouellet, qui a déboursé près de 450 $ depuis 5 jours. « Ça fait dur, ça n'a pas de sens pour une chambre que tu payes. J'ai demandé de changer, mais il n'y en avait pas d'autres disponibles », poursuit le camionneur qui s'est plaint sans succès. Pour sa part, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal assure par courriel que les chambres sont nettoyées tous les jours. M. Ouellet est arrivé à l'hôpital jeudi dernier à la suite d'intenses douleurs à l'abdomen. Il a demandé une chambre semi-privée après 2 nuits car il était toujours réveillé par les autres patients. Malgré les 89 $ par jour qu'il paie pour la chambre, M. Ouellet y passe bien peu de temps. « Je ne reste pas ici, je trouve ça déprimant, je suis tout le temps en bas à la cafétéria où il y a des livres à lire », raconte-t-il. Mais il s'attire ainsi les foudres des infirmières qui n'aiment pas avoir à le chercher dans l'hôpital quand elles viennent le voir pour prendre ses signes vitaux notamment. L'homme d'affaires Alexandre Taillefer avoue être placé dans une situation délicate à la suite de la nomination de son amie Isabelle Melançon à la tête du ministère de l'Environnement. L'ex-dragon, propriétaire de l'entreprise Théo Taxi, est en effet lobbyiste pour plusieurs projets environnementaux qui nécessitent des subventions gouvernementales ou des changements législatifs. L'inconfort est tel que le Parti libéral a retiré de son site Web cette semaine une vidéo dans laquelle M. Taillefer appuyait ouvertement Mme Melançon. En entrevue téléphonique, Alexandre Taillefer a assuré être bien au courant de l'apparence d'accès privilégié. Il n'est pas question qu'il y ait des passe-droits tant de la part de la ministre que de son équipe gouvernementale. Le gouvernement doit être extrêmement prudent quand il fait des dossiers avec moi. L'homme d'affaires estime avoir des détracteurs dans le milieu du taxi qui scrutent tous ses projets à la loupe. Il reconnaît que son appui à Isabelle Melançon peut soulever des questionnements qu'il cherche à désamorcer. « Ce n'est pas comme si j'essayais de manigancer par en arrière pour faire avancer mes dossiers. Je le fais de manière très, très très public. Si on propose des solutions efficaces pour la diminution d'émissions de gaz à effet de serre, j'espère que ça ne me défavorisera pas, conclut M. Taillefer. Et l'enquête portant sur la mort du cycliste Clément Ouimette est toujours en cours et on ignore si des accusations criminelles seront déposées contre le conducteur américain de 59 ans l'ayant happé mortellement il y a 2 semaines sur le Mont-Royal à Montréal. En effet, il y aurait eu une erreur de communication au sein de la police de Montréal qui a déclaré mardi matin que des accusations de négligence criminelle causant la mort seraient déposées contre le chauffeur fautif. Or, l'enquête n'est pas encore terminée et pour l'heure, le conducteur ne sera accusé de rien. Il n'est toutefois pas exclu qu'il fasse face à la justice dans un avenir rapproché, une fois que le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Oh, c'est clair. C'est l'enfer, essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée, puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble, pour finir la route ensemble. Me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence. Parce qu'il y a trop d'écho dans nos égos, pis c'est pas tout. Il y a trop de taux sur nos autoroutes, pis faut survivre à nos cerveaux qui arrivent trop tôt au bureau. Il y a des soirs où l'espoir s'empare de mon corps, mais la mort roule. Pis ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, c'est sûr que c'est dur, essayer de se projeter dans le futur. Faut s'attendre à n'importe quoi. Me semble que ça va me prendre un emploi, moi. Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur. Puis qu'un jour, un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé. Monsieur Bilodeau, j'ai une question. J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube. Ouais, vous étiez pas mal cute, mais comment ça se fait qu'en vrai vous êtes pas mal plus laid. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. C'est évident, le présent se présente toujours trop rapidement, et tu seras toujours là, ma belle crise existentielle.
Crise existentielle, c'était le titre de cette nouveauté signée Émile Bilodeau.
Alors, ça fait la une du Devoir d'aujourd'hui. Bernie Sanders, une révolution toute simple, un politicien hors norme dont la popularité lors des primaires démocrates de 2016 en a surpris plus d'un. Michel Lapierre signe l'article et il accorde 4 étoiles à notre révolution de Bernie Sanders. Si l'on s'étonne qu'un socialiste avoué comme Bernie Sanders ait mené une chaude lutte à Hillary Clinton lors des primaires démocrates pour l'élection présidentielle américaine de 2016, et qu'il ait forcé la candidate finalement choisie à lui ressembler par certaines idées, il faut lire « Notre révolution ». Dans ce manifeste qui tient de l'autobiographie, le sénateur révèle que son éveil politique a commencé lorsqu'on a arraché à Brooklyn son équipe de baseball. Sur un ton qui rappelle l'humour du grand romancier américain Philip Roth, d'origine juive comme lui, Sanders, né à Brooklyn en 1941, souligne que lorsqu'on déménagea en 1957 à Los Angeles les emblématiques Dodgers de Brooklyn, l'équipe de baseball du vaste et célèbre district de la ville de New York, en vue de réaliser plus de profits, ce fut chez lui, adolescent, l'une des premières observations des vices du capitalisme. N'était-ce pas l'équipe majeure qui brisa un tabou en recrutant un joueur noir? Ce joueur, Jackie Robinson, s'était d'abord illustré à Montréal dès 1946 dans un club-école des Dodgers, l'équipe des Royaux où ne sévissait pas la ségrégation raciale présente aux États-Unis avant qu'une loi fédérale, le Civil Rights Act de 1964, ne l'interdise. Avec le départ des Dodgers, Sanders prit conscience de l'exclusion sociale et des difficultés des classes modestes comme la sienne. Son père était arrivé en Amérique de la Pologne à 17 ans, sans le sou, pour devenir vendeur au service de fabricants de peinture. Cependant, la vie semblait plus prometteuse à la nouvelle génération. À l'Université de Chicago, où il obtiendra un diplôme de premier cycle en sciences politiques, le jeune homme suit les cours sans enthousiasme, ne prépare guère les examens, mais dévore une multitude de livres sur tous les sujets. Il découvre, écrit-il, que l'Amérique n'avait pas toujours été la terre de liberté et la demeure des braves, que proclame son hymne national et que notre pays n'avait pas toujours penché du bon côté de l'histoire avec un grand H. Moins intellectuel que Noam Chomsky, autre grande figure d'ascendance juive de la gauche américaine, moins porté que lui sur de profondes et originales réflexions au sujet de l'évolution internationale, Sanders possède toutefois une qualité unique. Il sait toucher la sensibilité populaire la plus intime de la nation. Incarnation de l'aile progressiste du Parti démocrate, il résume ainsi un succès indéniable. Plus de 13 millions de voix aux primaires et au caucus, le fait de remporter 22 États, dont beaucoup très largement, l'obtention de 1846 délégués à la Convention démocrate, presque partout d'une forte majorité chez les jeunes. Et ce qu'il souligne avec le plus de fierté, le financement, sans avoir sollicité les millionnaires et les milliardaires, d'une campagne par environ 8 millions en contributions de 27 en moyenne, de 27 $ en moyenne. Cela s'explique par l'affinité naturelle de Sanders avec la classe populaire et la frange progressiste de la classe moyenne. Dès 1968, il s'installa au Vermont, l'un des États américains les plus ruraux, pour y travailler comme petit fonctionnaire, journaliste local et même charpentier. En 1981, il devint maire de Burlington, la plus grande ville de l'État, municipalité d'environ 40 000 habitants, plus proche de Montréal que des métropoles américaines. Pas encore démocrate à l'époque et aux antipodes des républicains, il rappelle avec fierté « J'étais le seul dans tout le pays à avoir contrecarré le système bipartite et le seul maire socialiste des États-Unis. » On les lira en 1990, représentant indépendant du Vermont, au Congrès américain, puis en 2006, sénateur indépendant à Washington pour le même État. Sous la pression de ses partisans, il décidera enfin de se présenter en 2015 comme candidat à la présidence du pays pour les primaires démocrates. En 1999, Sanders innova en tant que membre du Congrès en emmenant des électeurs de l'autre côté de la frontière pour y constater la disparité éhontée des prix qu'imposent aux Américains leur industrie pharmaceutique par rapport au reste du monde. Il raconte à Montréal, les larmes aux yeux, des femmes de la classe ouvrière atteintes de cancer du sein ont pu acquérir des médicaments de la même marque commerciale que ceux qu'elles achetaient dans le Vermont, mais 10 fois moins cher. L'homme politique insiste toujours sur le dépérissement de la classe moyenne. 43 millions d'Américains vivent dans une pauvreté souvent extrême. Des millions ne peuvent accéder à l'université sans s'endetter. Des milliers meurent chaque année, incapables, faute d'argent, de consulter un médecin à temps. À ceux qui lui répliquent qu'avec une dette nationale de 19 400 millions, les États-Unis n'y peuvent rien, il répond « Nous sommes plus riches qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. » Sanders explique « Le problème, c'est qu'une fraction trop importante de cette extraordinaire richesse est détenue par le 1% le plus riche et que celui-ci, au lieu de payer sa juste part d'impôts, a bénéficié d'énormes allègements pendant des années. Son analyse de la crise financière américaine de 2008 et, en définitive, mondiale, est simple et très parlante. La solution s'appuie, selon lui, sur un retour à une réglementation plus serrée, autoriser les banques commerciales à fusionner avec les banques d'investissement et les compagnies d'assurance en 1999 a été une énorme erreur. Cela a précipité le plus gros plan de sauvetage financé par les contribuables de l'histoire mondiale. Par une taxe sur les transactions financières, il est grand temps que Washington et Wall Street redonnent aux contribuables et aussi aux plus pauvres ce qu'ils ont enlevé à la société américaine. La révolution de Sanders commence par une justice comprise de tous du premier coup. Bernie Sanders en 3 citations. « Je suis juif, la perte d'une famille dans l'Holocauste dont des enfants de mon âge, l'accession au pouvoir d'un fou de droite lors d'une élection libre en Allemagne, une guerre qui a fait 50 millions de morts, dont plus d'un tiers de la population juive de la planète, tout cela a eu un impact indélébile sur ma vie et sur ma pensée. » Autre citation, le 10 décembre 2010, j'ai pris la parole au Sénat afin de m'opposer à une autre politique menée par Obama, l'extension de certains abattements fiscaux instaurés par Bush pour les Américains les plus riches. J'ai commencé mon discours à 10h30 et je l'ai terminé 8h30 plus tard, ce qui fait de moi l'orateur ayant mené la plus longue obstruction au Sénat depuis bien des années. Troisième citation, on l'ignore souvent, mais l'employeur qui paye le plus mal en Amérique, ce n'est pas Walmart, ce n'est pas McDonald's ni Burger King, c'est le gouvernement des États-Unis. Extrait de Notre Révolution, autobiographie de Bernie Sanders, dont parle Michel Lapierre dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le rêve de Corneau réalisé. La galerie Corneau, anciennement ACA, lance vendredi dans le Vieux-Montréal l'exposition Corneau et Warhol, dont rêvait la peintre québécoise morte l'an dernier à l'âge de 64 ans. Elle réunit des œuvres originales de Corneau, des pochettes de disques et des affiches d'expo d'Andy Warhol qui proviennent de la collection de Paul Maréchal. Joanne, entre parenthèses Corneau, a été influencée par Warhol, dit sa sœur Lynn Corneau. On le constate avec ses Marilyn. Elle reconnaissait chez Warhol une énergie de travail qu'elle avait elle-même. Comme lui, elle était prête à déranger le marché de l'art en faisant ce qu'elle avait envie de faire. Il y a 3 ans, Corneau avait demandé à Louis Plamondon, directeur de sa galerie de la rue Saint-Paul, à Montréal, de pouvoir rencontrer le collectionneur Paul Maréchal, spécialiste d'Andy Warhol. Elle voulait faire un événement Corneau-Warhol à New York, dit M. Plamondon, ex-réalisateur à Radio-Canada. Paul Maréchal était intéressé, mais il était alors très occupé par des projets d'exposition et d'écriture. Il connaît l'œuvre de Corneau depuis 30 ans. « Je trouvais formidable qu'une Canadienne puisse s'établir à New York et y vivre de son art. Elle donnait tout pour sa peinture, dit M. Maréchal. En même temps, je voyais la critique qui l'entourait, poursuit le collectionneur. On l'accusait de faire de l'art commercial. En fait, on l'accusait de faire du Corneau, comme Warhol, qui de son vivant avait des détracteurs et qu'on accusait de faire du commercial. Le souhait de Corneau a finalement été exaucé. L'exposition a lieu, mais sans elle, morte d'un cancer le 21 décembre dernier au Mexique. Alors, si vous voulez découvrir ses œuvres, c'est à la Galerie Corneau, 51 rue Saint-Paul-Ouest, Montréal, du 20 octobre au 23 décembre. Merci d'écouter les voix de service quotidien en cette belle journée du 18 octobre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous. Bientôt, une chanson pour vous et aussi les actualités internationales, culturelles, ainsi que la tournée des journaux régionaux. Tabadadam tayidam dum dadum dum tabadadam tabadadam papapapam. Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic. J'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique. Faut surtout pas t'inquiéter pour l'arrière-goût qui pique. J'espère que j'ai bien dosé les gouttes d'arsenic. Ta-dam, 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 ta-dam. C'est pas vraiment que tu m'exaspères, mais simplement que t'as fait ton temps. Je plaiderai homicide involontaire, fais passer tête la voyant. Grâce à moi, tout est parfait, on restera au stade de la passion. Après tout, c'est toi qui voulais un enterrement de vie de garçon. Ta-dam-tam, tam-tam, ta-dam-tam, ta-ba-da-dam, ta-i-dam, tam-ta-dam-tam. L'amante religieuse, pas vraiment catholique, la douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. On ne tient plus des comptes des amoureux entre ses doigts. Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. Tabadadam taïdam, dam dam dam. Mon amour, j'ai saboté les freins de ta BMW. Tu n'auras qu'à prendre le chemin le plus accidenté. Et si tu bouclettes ta ceinture, si tu conduis prudemment, j'opterai pour le cyanure ou l'explosif dans la boîte à gants. Ta-dam-tam, ta-dam-tam, ta-dam-tam. Mon amour, est-ce que c'est toi qui as téléphoné aux flics? Pourtant je t'ai dit que j'avais pas, que la morora c'était toxique. Bon alors puisque c'est comme ça, si tu me crois pas moi je te quitte. Bon allez, ne pleure pas, je te pardonne et on y quitte. Ta-dam-tam, religieuse, pas vraiment catholique, la douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts. Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. Tabadadam taïdam, tam tam tam. La rumeur est unanime qui sera sa prochaine victime. Candidat au kamikaze, un carnet d'adresses de 2000 pages. L'amoureuse en série, l'allumeuse et sa pyromanie. Elle prend une pause en deux amants, le temps de dire au suivant. Ta-dam, tam, pam, 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 ta-ba-da-dam, ta-i-dam, tam-ta-dam, tam, ta-ba-da-dam.
Extrait de l'album « Ma petite mamzelle de chemin », c'était Ingrid Saint-Pierre et pâte au basilic.
Actualité internationale maintenant. L'Irlande du Nord se réjouit. Les inquiétudes sur les emplois nord-irlandais sont apaisées. Les responsables politiques et syndicaux en Irlande du Nord se félicitaient mardi de l'alliance entre Airbus et Bombardier qui apaise les inquiétudes sur la préservation des emplois nord-irlandais liés aux différends avec Boeing. Bombardier est l'un des principaux employeurs en Irlande du Nord avec des effectifs de près de 8000 personnes, dont 4200 pour les seules activités aéronautiques, la majeure partie dans son usine de Belfast, où sont fabriquées les ailes et des éléments du fuselage de la C-Series. Le président américain Donald Trump a essuyé hier un nouveau revers judiciaire, un juge fédéral de Hawaï suspendant largement l'application de la dernière version de son décret anti-immigration. Cette décision du magistrat Derek Watson, qui siège dans cet État du Pacifique très démocrate, a une portée nationale. Elle est tombée quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur dans sa totalité du texte interdisant de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de 7 pays musulmans dans leur majorité. Ce jugement, porteur d'erreurs dangereuses, sape les efforts du président pour protéger la population américaine, a réagi la Maison-Blanche. Rio Tinto inculpé pour fraude à New York. Le géant minier anglo-australien Rio Tinto et deux de ses anciens dirigeants ont été inculpés de fraude par les autorités américaines pour avoir gonflé les actifs de charbon de la firme au Mozambique, a annoncé le groupe. L'inculpation est consécutive à une plainte déposée par le gendarme américain de la Bourse, la SEC ou la SEC, auprès d'un tribunal de Manhattan, a indiqué Rio Tinto dans un communiqué. Thomas Albanese et Guy Elliott, qui étaient respectivement PDG et directeur financier au moment des faits, sont accusés de ne pas avoir respecté les normes comptables en vigueur. Rio Tinto pense que la plainte de la SEC n'est pas fondée et que lorsque tous les faits seront étudiés par le tribunal ou, si nécessaire, au pénal, les allégations de la SEC seront rejetées, ajoute le deuxième groupe minier mondial qui assure vouloir se défendre vigoureusement. La cadence et l'ampleur des projets terroristes se sont accélérées de façon spectaculaire au Royaume-Uni, a déclaré hier le chef du service de renseignement britannique. Nous avons vu une augmentation spectaculaire de la menace cette année. En 34 ans de carrière, c'est le rythme le plus élevé que j'ai connu, a déclaré Andrew Parker, directeur du M15. 20 attaques terroristes ont été déjouées au cours des 4 dernières années, a-t-il dénombré, et ces 7 derniers mois, nos services et les services de police ont déjoué 7 attaques par des islamistes. Depuis le début de l'année, 5 attentats ont été commis au Royaume-Uni, 4 à Londres et 1 à Manchester. L'échelle à laquelle nous opérons est plus grande que jamais. Nous menons plus de 500 opérations de surveillance concernant environ 3000 individus, a-t-il dit. L'épidémie de peste qui s'est déclarée il y a 2 mois à Madagascar continue à se propager, notamment dans sa capitale, Antananarivo, et a fait déjà au moins 74 morts, selon un nouveau bilan publié hier par les autorités locales. Au total, 805 cas de la maladie ont été recensés sur le territoire de la Grande Île, a ajouté le ministère de la Santé. La peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement de septembre à avril. Mais cette année, l'épidémie a débuté dès août et s'est propagée aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Elle a provoqué un vent de panique parmi la population malgré les appels au calme du gouvernement. Le prince William et son épouse Kate attendent leur prochain bébé pour avril 2018, a annoncé hier le palais de Kensington. Le duc et la duchesse de Cambridge, qui attendent leur 3e enfant après George et Charlotte, sont ravis de confirmer le mois de naissance, ajoute un bref communiqué. l'actualité culturelle, vous venez d'entendre la voix de Gord Downie, qui est mort mardi soir. On l'a appris ce matin. Il était atteint d'un cancer du cerveau. Il avait 53 ans, chanteur à la voix extraordinaire du groupe canadien de Tragically Hip. Leonard Cohen intime. Décidément, ce sera l'automne Cohen. Il y aura bien sûr le spectacle hommage Tower of Songs qui sera présenté au Centre Bell le 6 novembre, mais le Musée d'art contemporain de Montréal, qui consacre une expo aux chanteurs à compter du 9 novembre, a aussi organisé une série de 5 spectacles intimes en collaboration avec Pop Montréal. Chaque soirée tournera autour d'un disque du poète montréalais. Et si les musiciens seront les mêmes d'une fois à l'autre, les solistes changeront. Par exemple, pour le premier spectacle qui sera présenté le 30 novembre au Jésus, Little Scream, Martha Wainwright et Tooth Holes interpréteront les chansons de I'm Your Man. Il y aura ainsi un spectacle par mois pendant les 5 mois que dure l'exposition. Ariane Moffat et Cœur de Pirate s'empareront du disque Songs of Leonard Cohen lors de la dernière soirée, le 28 mars. Nana Mouskouri a vendu 400 millions d'albums et obtenu 300 disques d'or en carrière. Mais pas question pour la chanteuse grecque de 83 ans de se reposer sur ses lauriers. Sa tournée Forever Young la fera passer le 19 mai prochain par la Maison symphonique de Montréal, un lieu parfait pour cette artiste qui a fait le tour du monde un nombre incalculable de fois avec ses chansons. Ce spectacle, qui se veut un retour aux sources sous forme de jouvence, sera une manière de célébrer en 2018 ses 60 ans de carrière. Les Inrock s'expliquent, elles répliquent. Dans un éditorial publié hier, la direction des Inrock revient sur la une de son plus récent numéro consacré à Bertrand Cantat, qui a tué l'actrice Marie Trintignant. Les Inrock soulignent avoir reçu énormément de réactions négatives, tout en rappelant que Cantat est intimement lié à l'histoire du magazine. L'ampleur et la gravité de l'affaire Harvey Weinstein est venue rappeler à quel point il existait plus que jamais. Un système d'oppression masculine dont la société ne veut plus, peut-on y lire. Ce constat, les Incorruptibles l'ont fait depuis de nombreuses années, et ce journal s'est toujours battu contre les violences envers les femmes, contre le sexisme et pour l'égalité entre les sexes. Le magazine Elle a répliqué aux Inrock par un éditorial montrant en photo Marie Trintignant. Et on voit la une où on voit la belle et regrettée Marie Trintignant, le titre au nom de Marie. Les adieux doux amers du Zoulou blanc. Quand je jette un regard en arrière, je me dis que j'ai eu une vie incroyable. J'ai connu une révolution de l'intérieur. Quel grand honneur d'avoir été en vie sur cette planète, dit Johnny Clegg en entrevue téléphonique avec Sylvie Saint-Jacques dans la presse d'aujourd'hui. L'artiste sud-africain qui a éveillé les consciences avec son hybridation de sons occidentaux et de chants et danses traditionnels zoulous monte demain soir sur la scène de la salle Wilfrid Pelletier, l'une des escales de son dernier tour de piste, The Final Journey. En rémission 2 ans après un diagnostic de cancer du pancréas, suivi de 2 chimiothérapies, Johnny Clegg sait trop bien que son temps est compté. Un sentiment doux-amer me gagne à la fin de chacun de ses shows. D'habitude, vous dites au public « au revoir, à l'année prochaine », mais j'ai tout de même la chance d'avoir l'énergie de le faire, même si je me sens exténuée après chacune de ses prestations, qui sont très physiques, dit Johnny Clegg. George Saunders, lauréat du Man Booker Prize 2017. L'Américain George Saunders est le lauréat 2017 du Man Booker Prize, le plus prestigieux prix littéraire anglophone pour Lincoln in the Bardo, un roman profondément original annoncé le jury mardi soir à Londres. Saunders, un Texan de 58 ans réputé pour ses nouvelles et ses longs articles de magazine, a battu 5 autres finalistes avec son premier roman de format classique, dans lequel les récits de plusieurs centaines de narrateurs s'entrecroisent pour raconter la mort à l'âge de 11 ans du fils d'Abraham Lincoln, Willie. La vie parisienne d'Isabelle Boulay, la chanteuse québécoise, sera en spectacle à l'Olympia de Paris ce soir. Isabelle Boulay fait partie d'une poignée de Québécois qui ont le statut de star à Paris et il suffit de passer 2 heures avec elle pour le constater. C'est un texte de Sandra Godin dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Isabelle Boulay se souvient de toutes ses premières fois à Paris, comme son tout premier Olympia de Paris en solo le 4 décembre 2000. Et la première fois où elle a vu son nom en grosses lettres sur la marquise, j'avais l'impression que j'étais encore petite, se rappelle-t-elle. D'Édith Piaf à Dalida, en passant par Johnny Hallyday, les plus grandes légendes françaises y sont passées. Aujourd'hui, Isabelle Boulay a fait la mythique salle une 20aine de fois et elle le refera ce soir. Ça reste un des endroits où j'ai le plus peur de monter sur scène. C'est une des salles où j'ai eu les plus grands tracts de ma vie. Des fois, je suis en train de chanter et je me dis que jamais je n'aurais pensé me trouver là où je suis. Angèle Coutu se cherche du boulot. Son personnage, sœur Marie-Gisèle Castonguay, vient de mourir dans Unité 9. Après la mort hier de sœur Marie-Gisèle Castonguay dans la série Unité 9, Angèle Coutu se retrouve sans boulot à la télévision. Je me demande si je ne devrais pas parader sur la rue déguisée en femme sandwich pour réclamer du boulot, a lancé la comédienne. « Je n'ai pas de plan B, je dois aller me chercher un petit salaire », dit Angèle Coutu, morte 7 fois à l'écran dans son rôle de Francine Duval dans « Les héritiers », Madeleine Beaulieu-Landry dans « Le retour », Mémé dans le film « Borderline », Véronique Leviel dans « Le gentleman », Denise Paquin dans « Trauma », Simone Desbiens dans « Toute la vérité », et Marie-Gisèle Castonguay dans Unité 9. Alors, la tournée des journaux régionaux dans le quotidien, un texte de Pascal Girard, d'Arvida à Hubert Reeves. Un professeur de physique et d'astronomie originaire d'Arvida, Jean-Michel Castonguay, a vécu tout un moment mardi. Il a assisté à l'inauguration officielle d'une exposition au Muséum national d'histoire annuelle de Paris, à laquelle il a contribué en fournissant une pierre de Charlevoix, issu d'un impact avec un météorite qu'il est allé porter lui-même. De plus, il a vécu l'événement en compagnie du célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves, après avoir été reçu chez lui auparavant pour l'apéro. Une pierre marquée il y a 400 millions d'années par l'impact d'une météorite tombée sur Charlevoix a été fournie au musée pour se joindre aux autres spécimens d'une exposition temporaire sur les météorites et les impacts météoritiques. L'exposition « Météorites entre ciel et terre » a été inaugurée officiellement mardi et sera accessible au public mercredi. Elle sera présentée au Jardin des plantes de la Grande Galerie de l'Évolution jusqu'en juin 2018. Quand une grande météorite frappe, les pierres qui sont déjà là vont porter des marques. Ça s'appelle un cône de percussion. C'est ce qu'on a apporté. La grande majorité sont des météorites dans l'exposition. C'est le seul compte de percussions qu'ils ont présenté. Je suis allée le chercher cet été expressément pour le muséum. Je l'ai apporté avec moi dans mes bagages. Il pesait 40 kilos et je l'ai fait tailler à 9,5 kilos. Je l'ai apporté jeudi passé. Le but était de leur amener la pierre avec un peu d'avance. C'est un des musées scientifiques les plus réputés au monde. Ça sort de l'ordinaire, a raconté le professeur au Centre d'études collégiales en Charlevoix, qui est une extension du cégep de Jonquière situé à la Malbaie. Celui qui est également directeur de l'observatoire de l'astroblème de Charlevoix avait bien prévu qu'une roche d'une telle taille attirait l'attention des douaniers. Selon le Larousse, un astroblème est un cratère formé par l'impact d'une grosse météorite. Pour les douanes, j'avais fait une lettre que j'ai mise avec la roche car je me doutais que ça allait être bizarre. Quand on est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait du tape du service frontalier. Ils avaient tout défait aux douanes à Québec, mais ils avaient laissé un carton pour expliquer, a-t-il raconté, le sourire dans la voix. Rencontrer Hubert Reeves a été un grand privilège pour l'Arvidien d'origine. C'est l'histoire d'un petit gars du Saguenay qui enseigne dans Charlevoix et qui est rendu à Paris et qui a pris un petit verre de Porto avec Hubert Reeves, a-t-il imagé. Rappelons qu'Hubert Reeves est un des plus éminents scientifiques issus du Québec. L'astrophysicien a été un des plus grands vulgarisateurs et est devenu au fil du temps un ardent défenseur écologiste. On est allé voir notre roche en commençant. C'est un peu symbolique que ce soit une roche de Charlevoix. Avant de devenir astrophysicien, il a passé beaucoup de temps à Charlevoix. Il a eu envie de comprendre l'univers dans lequel on vit. Il y a même une petite inscription à côté de la roche pour lui rendre hommage. C'est un hommage d'apporter une pierre de Charlevoix. C'est au-delà de ce que je pouvais espérer, a poursuivi celui qui travaille dans la région de Charlevoix depuis 1999. Il a cependant pris la peine d'indiquer au quotidien qu'il est un ancien du cégep de Jonquière et qu'il a obtenu un baccalauréat en physique et une maîtrise en optique à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est certain que le fait que M. Reeves m'invite pour l'apéro, c'était vraiment génial. J'ai discuté de toutes sortes d'autres choses avec lui, a-t-il raconté à propos de celui qui est une idole pour bien des scientifiques québécois. Selon le communiqué de presse transmis par le cégep de Jonquière, la collaboration entre le musée et l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix s'est créée grâce à Annette Vielle, qui a déjà travaillé au musée parisien. Elle est actuellement contractuelle pour le projet de pavillon Hubert Reeves dans Charlevoix, un projet dans l'air depuis plusieurs années, mais toujours à la recherche de financement. Alors, Jean-Michel Gastonguet, et non Castonguet, a immortalisé son arrivée avec sa pierre, avec son réemballage de fortune fait par les douaniers jeudi dernier au Muséum national d'histoire naturelle. Et on voit la photo prise par Jean-Michel Gastonguet lui-même. Toujours dans le quotidien, Patricia Rainville. La journée de lundi a été chargée en émotions à l'école Camille Lavoie d'Alma. La petite fille de 9 ans de Suzy Tremblay, cette enseignante de sciences qui est morte en pleine classe la semaine dernière, a rencontré les élèves de 5e secondaire de sa mère. La rencontre, qui est née d'une volonté de la fillette, a mis un baume au cœur des étudiants endeuillés. La famille de Suzy Tremblay, victime d'une rupture d'anévrisme alors qu'elle enseignait, désirait visiter le milieu de travail de la dame, mais espérait également pouvoir rencontrer ses élèves qu'elle chérissait et dont elle parlait beaucoup à la maison. La rencontre s'est faite très naturellement. L'enfant voulait rassurer les élèves, leur dire que ce n'était pas de leur faute si sa mère était décédée. Elle a redemandé s'ils dormaient bien depuis. Elle a dit que leur mère voudrait qu'ils dorment bien et qu'ils ne se sentent pas coupables, a expliqué la directrice générale de la commission scolaire du lac Saint-Jean, Christine Flaherty. La rencontre a eu lieu durant le cours d'éthique religieuse. On trouvait que ça s'y prêtait bien. Les élèves ont également été préparés avant la rencontre et un psychologue était présent en classe, a ajouté Mme Flaherty. Selon elle, la petite a beaucoup épaté les élèves par sa maturité et sa résilience. L'enfant a également informé les jeunes que sa mère avait fait don de ses organes. un élève a décidé de changer le sujet de son projet intégrateur, un travail de recherche qui s'échelonne tout au long de l'année scolaire, pour traiter du don d'organes, a affirmé la directrice. Dans la tribune, Jean-François Gagnon, nouveaux urodateurs au Centre de santé Les Magogois devront s'adapter. L'arrivée de nouveaux urodateurs au Centre de santé de Magog a créé une certaine confusion chez les usagers des stationnements de l'établissement Magogois mardi. Depuis lundi, les automobilistes qui entrent et sortent des stationnements du Centre de santé de Magog n'ont plus à franchir une barrière. Quand les gens ne possèdent pas de permis de longue durée, ils doivent utiliser les nouveaux urodateurs installés par le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie, CHUS. Cette mesure a d'abord été appliquée à Magog, mais tous les établissements du CIUS de l'Estrie, CHU, possédant des stationnements payants, sont visés. Le déploiement se terminera le 26 octobre. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service ce quotidien. Il me semble que ça passe très, très vite. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve à l'émission Les Paractualités si vous êtes à l'écoute en direct.